Le Monde aujourd'hui, à Washington.
Bonsoir à tous, bienvenue dans Le Monde aujourd'hui, édition de 18h30 en temps universel du vendredi 12 juillet 2019. Raissa Girondin, votre compagnie, voici les titres. Une tentative de coup d'État est annoncée au Soudan avant la signature de l'accord sur la transition. Devant la Cour pénale internationale, poursuite du procès d'un djihadiste malien accusé de crimes de guerre.
Le procureur, ces derniers jours, a fait de lui un monstre. Et ce n'est pas du tout ce que la plupart des témoins à charge racontent de M. Alassane.
Aux États-Unis, le président Donald Trump confirme une vaste opération d'expulsion d'immigrés clandestins. Vous retrouverez bien sûr le journal de la CAN. La Tunisie et l'Algérie se sont qualifiés pour les demi-finales. Mais tout d'abord, le journal. Au Soudan, les généraux affirment avoir déjoué une tentative de coup d'État. Cette annonce survient alors qu'une rencontre entre le conseil militaire et des meneurs de la contestation se tenait à Khartoum hier pour finaliser les termes d'un accord sur la transition. Les précisions avec Jacques Aristide.
Parmi les putschistes figurent des officiers à la retraite et d'autres toujours en exercice, de même que des membres des services de renseignement, d'après le général Jamal Omar, président du comité de sécurité du conseil militaire. 12 personnes ont été interpellées et 4 écrouées. Toujours selon le général Omar, ces officiers ont tenté de s'emparer du pouvoir pour s'opposer à la mise en œuvre de l'accord de partage du pouvoir que l'armée a conclu avec l'opposition. Les généraux et les contestataires se sont entendus la semaine dernière pour partager le pouvoir pendant 3 ans jusqu'à la tenue d'élections. Cet accord doit encore être finalisé et paraphé.
Au Nigeria, 65 membres du groupe chiite connu sous le nom de mouvement islamique du Nigeria sont traduits en justice. Ils ont été arrêtés à Abuja lors d'affrontements avec les forces de sécurité. Ils sont accusés d'association de malfaiteurs, de rassemblement illégal et d'agression. Les détails avec Gilbert Tamba à Abuja.
Les suspects ont été traduits devant plusieurs tribunaux de la capitale fédérale Abuja. Ils ont été arrêtés au cours de 3 jours de manifestations et de violents affrontements avec la police. Le chef de la police nigériane, Mohamed Adamu, a déclaré que la police ne va plus tolérer le désordre, accusant les manifestants d'avoir tiré sur des agents de sécurité. De nombreux membres du mouvement chiite ont été blessés et beaucoup ont été arrêtés pendant les manifestations pour réclamer la libération de leur leader, Ibrahim Zakzaki. Il est en détention depuis le 14 décembre 2015, après un raid militaire dans l'état de Kaduna, où plus de 300 de ses partisans ont été tués. Il est accusé d'homicide volontaire, de rassemblement illégal et perturbation de la paix publique. Ibrahim Zakzaki a déjà été incarcéré dans les années 80 et 90. Son organisation chiite est très minoritaire au Nigeria, où plus de 4 musulmans sur 5 sont des sunnites.
Les présidents rwandais Paul Kagame et ougandais Yoweri Museveni se sont engagés à poursuivre le dialogue pour apaiser les tensions qui les opposent depuis des mois lors d'une rencontre régionale en Angola aujourd'hui. Les relations entre les deux chefs de l'État, autrefois proches alliés, se sont détériorées ces derniers mois, leurs deux pays s'accusant mutuellement d'ingérence politique et d'espionnage. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a désigné Freddy Matungulu, un des 5 dirigeants de la coalition d'opposition Lamuka, à un poste d'administrateur de la Banque africaine de développement. Ancien fonctionnaire de Fonds monétaire international, M. Matungulu reconnaît que ça l'éloignera de ses activités militantes. Sa candidature doit être validée par les ministres des Finances des pays d'Afrique centrale lors d'une réunion en août. Au Gabon, 4 responsables de la principale coalition syndicale ont été interpellés depuis mercredi. Début juillet, le président de Dynamique Unitaire, Jean-Rémi Yama, avait déclaré que son organisation avait l'intime conviction que le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, est mort. Le parquet de Libreville n'était pas joignable pour confirmer ou infirmer ces arrestations. En Libye, les missiles découverts dans un QG du maréchal Khalifa Haftar près de Tripoli, dont la France a reconnu la propriété, n'étaient pas entre des mains libyennes, a assuré aujourd'hui la ministre française des Armées, Florence Parly. Je cite, « Ces missiles ont été mis hors d'usage, ils étaient donc stockés dans un endroit qui était destiné à permettre leur destruction, mais pour des raisons qui tiennent aux événements qui se déroulent en Libye, ces missiles n'ont pas pu être détruits à temps », s'est justifiée la ministre française. Toujours jours en Libye, une semaine après une frappe qui a touché un centre de détention de migrants à Tripoli, faisant plus de 50 morts. Les organisations internationales appellent à la libération de tous les migrants. Selon le Haut Commissariat aux réfugiés et l'Organisation internationale des migrations, environ 5 600 migrants sont actuellement retenus. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, s'est livré à un plaidoyer dans la lutte contre le réchauffement climatique. Il s'est rendu à Beira, au Mozambique, après le passage dévastateur du cyclone Idai. Le Mozambique devrait servir d'avertissement au monde entier, a-t-il déclaré, appelant les grands pays à s'engager à des compromis ambitieux contre le réchauffement climatique.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Et à l'international, le président américain Donald Trump a confirmé qu'une vaste opération d'expulsion de migrants sans papier allait débuter ce week-end. Le point avec Eki Abadou.
Ils sont venus illégalement, a-t-il déclaré à des journalistes depuis les jardins de la Maison Blanche, affirmant que la police de l'immigration allait renvoyer ces clandestins dans leur pays. Cette vague d'expulsion a été annoncée le 21 juin, puis reportée de 2 semaines pour laisser le temps de trouver un compromis au Congrès sur les mesures de sécurité à la frontière avec le Mexique. Le New York Times a rapporté hier que des raids policiers contre des clandestins devaient commencer dimanche dans une dizaine de villes américaines et qu'environ 2000 familles sont concernées dans un premier temps. Selon ce journal, les clandestins visés ont déposé leur dossier de régularisation fin 2018 et ont reçu leur avis d'expulsion en février. En outre, M. Trump recevra lundi le président du Guatemala, l'un des pays avec le Salvador et le Honduras, d'où viennent la plupart des migrants ces dernières années.
Et toujours aux États-Unis, le ministre américain du Travail, Alexander Acosta, a annoncé aujourd'hui sa démission. Depuis plusieurs jours, il se voyait reprocher sa gestion en 2008 alors qu'il était procureur fédéral de Floride du dossier juridique du financier Jeffrey Epstein, accusé d'abus sexuels sur des mineurs. La Turquie a reçu ce vendredi une première cargaison de missiles russes S-400 malgré les avertissements de Washington qui menace Ankara de sanctions. Abdourahman Dia.
Selon une source citée par l'agence TASS, un autre avion avec d'autres éléments des S-400 doit décoller prochainement et une troisième livraison de plus de 120 missiles de différents types sera envoyée à la fin de l'été par voie maritime. Une autre source a indiqué qu'une vingtaine de militaires turcs ont été formés en mai et en juin en Russie à l'utilisation des missiles S-400 et 80 autres doivent l'être en juillet et août. La Turquie a rejeté mercredi une énième mise en garde américaine sur l'achat de ces missiles russes, appelant Washington à ne pas prendre de mesures susceptibles de nuire aux relations bilatérales. Les États-Unis estiment en effet que les systèmes russes ne sont pas compatibles avec les dispositifs de l'OTAN dont Ankara est membre. Washington juge qu'il existe un risque d'espionnage des Russes sur les équipements militaires américains utilisés par les Turcs. L'OTAN, elle, se dit préoccupée. Un responsable de l'Alliance a exhorté la Turquie à poursuivre le développement de systèmes de défense anti-aérienne avec des alliés de l'OTAN.
Dans le nord-ouest de la Syrie, au moins 13 civils ont été tués aujourd'hui dans des raids du régime de Bachar al-Assad, dont 3 dans la ville d'Idleb, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Dans l'est de l'Afghanistan, au moins 6 personnes sont mortes et 14 ont été blessées lorsqu'un kamikaze s'est fait exploser aujourd'hui lors d'un mariage. Les talibans ont nié toute implication dans cette attaque dans la province de Nangarhar, proche de la frontière avec le Pakistan. La Chine a annoncé aujourd'hui l'imposition imminente de sanctions contre les entreprises américaines liées à une vente d'armes de 2,2 milliards de dollars à Taïwan, une île dont Beijing revendique la souveraineté. Gang Shuang, un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, n'a pas précisé la nature ni quelle compagnie était visée. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Tout de suite, le journal de la CAN présenté par Yacouba Ouedraogo.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le journal de la CAN. Il n'y a pas de match aujourd'hui et demain. Les regards sont tournés vers les affiches des demi-finales qui vont se jouer dimanche au Caire. Le Sénégal fera face à la Tunisie à 16h temps universel et le Nigeria jouera contre l'Algérie à 19h. Hier, le conte de fées de Madagascar s'est arrêté en quart. La Tunisie a battu les surprenants Barea 3-0 au Caire pour allier le dernier carré de la CAN pour la première fois depuis 2004. Jusque-là, les Tunisiens avaient buté 5 fois en quart en 15 ans, depuis l'année de leur unique titre remporté à domicile, satisfait pour les Aigles de Carthage.
On est le premier à battre Madagascar, mais il le fallait pour pouvoir se qualifier. Ça prouve la qualité de cette équipe dans cette compétition. Et donc, on est très satisfait puisque ça nous propulse sur les demi-finales.
Alain Girès, sélectionneur de la Tunisie. C'est la première défaite pour les Malgaches dans cette CAN. Eux qui découvrent pourtant cette compétition continentale et qui ont réussi cet exploit d'atteindre les quarts. Nicolas Dupuis, sélectionneur de Madagascar.
Ça va être difficile de faire mieux la fois prochaine. Il y a beaucoup de travail à faire à Madagascar. Et justement, il faut se servir de ce qu'on a fait cette fois-ci pour dire à Madag le travail paye, qu'il faut continuer à travailler. Parce que sans ça, ça pourrait être quelque chose d'éphémère.
Juste avant la Tunisie, l'Algérie a arraché son ticket pour les demi-finales en éliminant la Côte d'Ivoire. À l'issue de la séance des tirs au but avec 4 tirs réussis contre 3, le score était de 1-1 à la fin du temps réglementaire et des prolongations. Désormais, le coach ivoirien a le regard tourné vers l'avenir. Ibrahim Camara.
On va s'appuyer là-dessus pour continuer le travail de reconstruction et de compétitivité que nous recherchons à travers cette compétition. Si je prends l'exemple du Sénégal en 2017, ils s'étaient arrêtés en quart de finale. Aujourd'hui, ils sont à demi. Donc, 2 ans pour construire. Il n'y a pas eu le feu à la maison. Donc, faut laisser le temps aux jeunes de s'aguerrir. Je pense qu'on a une belle équipe, on a une belle génération. Il n'y a pas de raison de s'inquiéter.
En face, c'est mission accomplie pour le sélectionneur de l'Algérie, Djamel Belmadi.
Se qualifier devant la Côte d'Ivoire, aller en demi-finale, c'est une énorme satisfaction. Une de mes ambitions, en tous les cas, à mon arrivée en équipe nationale, c'était de replacer l'Algérie dans le gotha des grosses équipes africaines. Donc rejoindre 3 équipes mondialistes et nous comme 4e, je trouve que c'est déjà pas mal.
Les Algériens sacrés en 1990 à domicile affronteront le Nigeria en demi-finale dimanche au Caire. Pas le temps de savourer pour les Fennec, il faut se remettre au travail.
Il va falloir se dépêcher, être très bon là-dessus, sur l'aspect de la récupération. Ensuite, voilà, il va y avoir des ressources psychologiques qu'il va falloir aller chercher. On va tomber contre un adversaire encore très très difficile. Mais comment on aurait pu est-il autrement en demi-finale de la Coupe d'Afrique.
Djamel Belmadi, sélectionneur de l'Algérie. Depuis Libreville au Gabon, Jules Valentin Ngoué revient sur ses derniers matchs des quarts de finale.
Dans l'univers impitoyable qu'est devenue cette 32e phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations, les finales avant la lettre se suivent et se ressemblent avec la même qualité, la même intensité et les mêmes émotions sur ou en dehors du terrain. Le match de quart de finale de jeudi soir entre l'Algérie et la Côte d'Ivoire n'a pas dérogé à cette règle. Les Ivoiriens qui venaient de livrer un match frustrant contre la jeune et brillante formation du Mali au tour précédent se devaient de sortir le grand jeu face à l'Algérie pour justifier leurs ambitions. Les faits de match vont se succéder dans cette rencontre relevée du pénalty du break marqué par Bounedja à l'égalisation méritée de Kodja avant que l'enjeu ne tue le jeu et n'augmente la pression sur les épaules des 22 acteurs. Une pression qui va culminer lors de la fatidique séance de tir au but gagné par les Fennec, somme toute méritant au vu de leur parcours d'ensemble. L'Algérie retrouve le Nigeria en demi-finale, alors que dans le dernier quart de finale de la soirée, la Tunisie a rehaussé son niveau de jeu pour surpasser l'héroïque formation des Aigles de Madagascar, dont la chevauchée fantastique est déjà le fait marquant de la compétition. La CAN marque la pause ce dimanche, qui précède les joutes impitoyables des demi-finales avec le double duel nord-ouest entre l'Algérie et le Nigeria d'une part, puis la Tunisie et le Sénégal.
Toujours dans l'actualité de la CAN, les riches Nigériens affichent leur soutien aux Super Eagles. Aliko Dangote, l'homme le plus riche d'Afrique, a promis de donner $50,000 pour chaque but que l'équipe inscrirait en demi-finale contre l'Algérie dimanche au Caire. Femi Otedola, un magnat du pétrole nigérien, a lui aussi promis de récompenser les hommes de guerre notre or à hauteur de $25,000 par but inscrit pendant le reste de la compétition. Chaque joueur a déjà perçu au moins $72,000 de bonus et de dons pour les performances exceptionnelles de l'équipe. Le Nigeria n'avait pas participé à la CAN depuis sa victoire en 2013, quand les Super Eagles ont remporté la coupe en battant le Burkina Faso. C'est tout pour le journal de la CAN.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Il est l'heure maintenant de vous proposer nos sujets magazine. Raissa Girondin, toujours avec vous dans Le Monde aujourd'hui. Les avocats de la défense du djihadiste malien Alassane Ag Mohamed sont montés au créneau hier. Dans leur plaidoirie, ils mettent en avant le manque de preuves tangibles et la récusation d'un juge de la cour. Notre correspondant Mamoudou Bokoum nous fait le point depuis La Haye.
D'entrée de jeu, les avocats de la défense s'inscrivent en faux contre le portrait de leur client dressé, selon elle, de façon sombre par le procureur. Maître Marie-Hélène Prou est l'une des conseillères de Alassane Ag Abdelaziz Ag Mohamed.
Le procureur, ces derniers jours, a fait de lui un monstre. Et ce n'est pas du tout ce que nous avons connu de lui, et ce n'est pas non plus du tout ce que la plupart des témoins à charge racontent de M. Alassane. Alors j'ai parlé et j'ai fait référence à des témoins à charge qui disent en fait que M. Alassane avait bonne réputation, que son nom ne ressortait pas lorsque les gens se plaignaient du comportement des groupes armés, qu'il était une personne sans problème, timide.
Dans leur plaidoirie, les conseillers du suspect ont avancé des thèses qui soutiennent que le procureur manque de preuves tangibles dans cette affaire. Maître Melinda Taylor, avocate d'Alhassan.
And for my submissions, I made three main arguments.
Nous avons trois points principaux. Nous avons déjà présenté nos arguments et par écrit en 100 pages. La majorité de nos arguments, ça se concentrait sur l'interprétation du procureur et ses arguments écrits aussi, démontrer à quel point le procureur avait une interprétation qui n'est pas pertinente des preuves et des et une mauvaise représentation ou une représentation erronée, déclaration des témoins.
Pour une plaidoirie de 9 heures, le même temps accordé au bureau du procureur par les juges, la défense n'a utilisé que deux. Elle a mis en cause la quasi-totalité des observations faites par l'accusation. Marie-Hélène Prou.
Nous avons attaqué les problèmes systémiques des accusations du procureur, les problèmes de notification, les problèmes de liens manquants, les problèmes de la qualité de la preuve, les problèmes d'inexactitude, les problèmes d'attribution. Ces problèmes sont systématiques et se retrouvent dans toutes les parties du document contenant les charges. C'est au procureur de prouver qu'il a apporté la preuve nécessaire pour que les juges soient satisfaits qu'il existe des motifs de croire que les crimes ont été commis et qu'ils sont attribuables à M. Alassane.
La défense a également fait une requête de récusation de la juge Reine Alapiniganzo. C'est à la chambre préliminaire de décider si oui ou non un procès sera intenté contre Alassane. Mamoudou Bokoum à La Haye pour VOA Afrique.
Participez à notre magazine interactif à votre avis du lundi au vendredi à partir de 18h TU sur VOA Afrique. Donnez votre opinion sur tous les sujets, sans tabou, politique, société, culture et bien plus encore. Vous pouvez même suggérer des thèmes sur notre page Facebook. À votre avis, l'occasion de vous exprimer librement du lundi au vendredi à partir de 18h TU sur VOA Afrique et voaafrique.com. À votre avis, c'est votre rendez-vous interactif au quotidien sur VOA Afrique. Au Tchad, les victimes des crimes du régime de l'ancien président Hissène Habré attendent toujours leur réparation. Elles sont passées à une vitesse supérieure en tapant dans des casseroles vides dans la capitale. André Komajingar fait le point de Djamena.
Ce sont les cris de cœur des personnes de troisième âge, victimes directes et indirectes du régime dictatorial de l'ancien président tchadien Hissène Habré, qui régnait d'une main de fer de 1982 à 1990. En mars 2015, la Cour criminelle spéciale de N'Djamena a condamné certains ex-agents de la DDS à des travaux forcés allant de 5 à 20 ans et d'autres à perpétuité avec saisie et confiscation de leurs biens. Quatre ans après, rien n'est fait en leur faveur. Visiblement affaiblis, les victimes se disent déterminées à maintenir la pression.
Ce mouvement, c'est pour faire appel au président de la République. Depuis 4 ans, le verdict est tombé. Il n'a pas appliqué la décision de la justice. C'est pour ça que nous sommes là sur la route en train de crier. On a très mal au cœur.
Nous revendiquons l'indemnisation de chaque victime. Et si rien n'est fait, on va envisager d'autres actions.
Pour le président de l'association des victimes des crimes du régime du Sanabré, Clément Tokot Abaifouta, le président Déby doit avoir pitié de ses victimes, surtout les veuves qui ont tout perdu.
Pendant les tintamarres, tout le monde a éclaté en pleurs, surtout les veuves. Mais la lutte, ça vaut un sacrifice. Nous interpellons une fois de plus le président de la République parce que c'est des engagements. Donc il faudrait que le président de la République, en tant que père de la nation, prenne ses responsabilités.
Le 28 juin dernier, un accord relatif à l'établissement du siège du fonds d'indemnisation des victimes des crimes de Sanabré, condamné à la prison à perpétuité par le tribunal spécial africain à Dakar en avril 2017 pour crimes contre l'humanité, crimes de guerre et torture, a été signé entre le gouvernement tchadien et l'Union africaine. Ce fonds doit s'occuper du paiement d'indemnisation de ces victimes fixé par la chambre d'appel à plus de 82 milliards de francs CFA. Clément Dokot Abaifouta estime que c'est une avancée certes, mais cela ne peut occulter l'exécution de l'arrêt rendu par la justice tchadienne contre les ex-agents de la DDS.
C'est la première étape. Il y a encore beaucoup de choses à faire. On s'en félicite, mais on attend de voir quand est-ce que cela va commencer. Mais ce qu'il faut préciser, c'est que c'est deux dossiers différents. Il y a le dossier de Dakar qui fait que le fonds d'indemnisation est en train de s'installer ici à Niamena. Et ceux pour lesquels nous continuons, n'est-ce pas, à manifester, c'est la mise en application du fossé de N'Djamena. C'est ce qui fait problème parce que là, rien ne bouge et pour ce cas, nous allons continuer, n'est-ce pas, à manifester.
Avec la signature de cet accord, un pas est franchi, estime les responsables du service juridique du ministère des Affaires étrangères. Ils demandent aux victimes de prendre leur mal en patience car lorsque le secrétariat de ce fonds sera installé, leur dossier sera traité avec diligence. André Kodmadjingar N'Djamena, VO Afrique.
Ce vendredi, dans l'Amérique et vous, nous parlons de l'équipe américaine qui a gagné sa 4e Coupe du Monde féminine de football. Les États-Unis deviennent ainsi la nation la plus titrée en Coupe du Monde, mais aussi la 2e sélection de l'histoire à soulever le trophée 2 fois d'affilée après l'Allemagne. Quel est l'état des lieux du football féminin? Quel regard portez-vous sur la discipline? Réagissez en direct à 19h en temps universel en appelant le 001 202 205 26 33. Commentez, laissez votre numéro sur la page Facebook VO Afrique et nous vous rappellerons.
Le Cameroun a commencé à distribuer des milliers de chèvres et de moutons aux villageois le long de sa frontière nord avec le Nigeria dans le but d'empêcher les jeunes chômeurs de rejoindre le groupe Boko Haram. L'espoir est d'autonomiser les familles vulnérables de la région. Moki Edwin Kinzeka s'est rendu à Maroua dans l'extrême nord du Cameroun. Son reportage est rendu par Lionel Gaïma.
Le gouvernement camerounais a commencé cette semaine à déployer une arme nouvelle et inhabituelle dans la lutte contre Boko Haram. Les autorités distribuent des milliers de chèvres et des moutons aux jeunes Camerounais des villages proches du Nigeria. Ce programme vise à fournir du bétail pour générer un revenu de base pour les habitants et contrer ainsi les tactiques de recrutement du groupe islamiste Boko Haram. Dans le village de Salak, Omar Nafissatou, âgé de 17 ans, a reçu 4 moutons.
Nous sommes des orphelins de père et de mère. On va élever les chèvres là et pour bénéficier de plus en plus. Et ça va nous aider aussi à l'école parce que nous sommes des orphelins de père et de mère.
Les combattants de Boko Haram ont tué les parents de Nafissatou ainsi que 21 autres personnes lorsqu'ils ont attaqué son village en 2017. Elle a eu la vie sauve en prenant la fuite. À peine une semaine plus tard, son unique sœur s'était tuée dans un attentat suicide dans une mosquée de Kolofata. Boko Haram avait recruté celle-ci avec la promesse d'un travail de femme de ménage, puis l'avait obligée de mener l'attaque comme kamikaze. Le gouvernement camerounais prévoit de distribuer dans la région plus de 60 000 chèvres et moutons d'ici la fin de l'année. Le ministre de l'élevage, le docteur Taïga, a expliqué que ces animaux iraient d'abord à ceux qui ont souffert dans la lutte contre Boko Haram.
Et il s'agit à travers ces articles productifs d'aider les familles vulnérables, voire un capital qui pourrait fructifier et qui leur permettra d'avoir des revenus et assurer ainsi leurs besoins primaires.
Pour beaucoup de ces villageois, ces chèvres et ces moutons apportent aussi un espoir de paix et de quiétude.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Après plusieurs semaines de vives polémiques, le président américain a fait machine arrière. Donald Trump a renoncé hier à ajouter une question controversée sur la nationalité dans le prochain recensement aux États-Unis. Il a toutefois ordonné à son administration d'obtenir les réponses par d'autres moyens. Le compte-rendu est de Zlatika Hock, le récit est de Jacques Aristide.
Le locataire de la Maison-Blanche demande à chaque agence du gouvernement fédéral de fournir au département du commerce tous les documents concernant le nombre de citoyens et de non-citoyens dans le pays.
Grâce au décret présidentiel, nous allons pouvoir nous assurer que le recensement de 2020 générera un décompte précis du nombre de citoyens, de non-citoyens et d'étrangers en situation irrégulière aux États-Unis d'Amérique. Ce n'est pas trop demandé.
Pour le président, il ne s'agit pas d'un revers, car il ne relâche pas les efforts pour déterminer le statut de citoyenneté de la population américaine.
Nous allons utiliser ces vastes bases de données fédérales pour obtenir un recensement complet, exact et précis du nombre de non-citoyens, y compris celles gérées par le département de la sécurité intérieure et l'administration de la sécurité sociale. Nous ne négligerons rien.
Il indique que de telles informations permettent de formuler les politiques publiques appropriées dans divers domaines, comme la santé, l'éducation et l'immigration, un effort que les démocrates font tout pour bloquer, dit-il.
Les démocrates d'extrême gauche de notre pays sont déterminés à dissimuler le nombre d'étrangers en situation irrégulière parmi nous.
Le recensement définit le nombre de sièges par État à la Chambre des représentants et influe également sur le budget alloué par le gouvernement fédéral. D'après les détracteurs du projet, poser cette question sur la nationalité serait discriminatoire et pourrait donner un avantage électoral aux républicains. Le démographe William Frey de la Brookings Institution.
Cela aura un impact sur la représentation des jeunes pas encore en âge de voter, ainsi que sur celle des minorités, des gens qui ne sont pas citoyens. Cela servirait à créer des districts beaucoup plus favorables au Parti républicain, parce que les gens qui votent républicains ont tendance à être âgés, blancs et ruraux.
La Cour suprême a bloqué il y a 2 semaines l'ajout de la question, jugeant artificielle les justifications fournies par le gouvernement. Mais pour le président Trump et son procureur général William Barr, elle est parfaitement légale, sauf que les procédures pour la prouver ne pourront pas être achevées avant le prochain recensement.
Le vendredi, tout est permis. Ainsi s'achève le monde aujourd'hui avec Maria Valencia de Papa Wemba. Merci de nous avoir suivis. La mise en onde a été assurée par Firmin Minxo Koyaweda. Mr. Chang était à la technique. C'était Raissa Gironda à la présentation. Restez connectés sur Facebook et sur notre site internet voafrique.com pour plus d'actualités. Excellente suite de programme. Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako, sur 102 FM. Raga FM, Kinshasa. Soleil FM, Conakry, 92.3 FM, Radio Wentanga, Wayegouya, Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.
VOA Afrique.